Etzara Yaakov ou Menaï Bachéa. C'est marqué une époque de malheur pour Yaakov, mais il en sera sauvé. Et à la fin des temps, il y aura des malheurs pour le peuple d'Israël. On va faire les phases d'enfantement du Messie. Et à la fin, les Israël seront sauvés. La question c'est combien de temps vont durer ces souffrances? Que 2000 ans qu'on souffre. Et depuis quelques jours, Israël subit des attaques terribles de Katyusha, de missiles iraniens. Et là, c'est beaucoup de morts dans Israël. Alors, on m'a demandé de parler, parce que les gens croient que j'ai la science infuse, que je suis prophète ou fils de prophète. Alors, je dis tout de suite, je suis ni prophète ni fils de prophète. Peut-être mes ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, mais pas beaucoup plus. Et je n'ai pas la science infuse, donc j'ai rien à dire. Il serait tout à fait inadéquat de profiter de maintenant que ça va mal, de dire « Ah, tu vois maintenant, regarde, c'est marqué, et c'est marqué, et c'est marqué, et c'est marqué. » Il est vrai que nous avons une mitzvah, chaque juif a une mitzvah, ça fait partie des 13 articles de foi de Maïmonide, de croire et d'attendre la venue du Messie. On peut l'attendre un peu, on peut l'attendre beaucoup. La mitzvah, c'est d'attendre beaucoup. Alors, quand on attend quelqu'un avec impatience, chaque éternuement qu'on voit, chaque petit détail qu'on voit dans l'actualité nous fait dire « ça y est, c'est bon ». Alors moi je dis toujours quand il y a des choses pareilles qui se passent, « ça y est ». Mashiach, vous demandez sincèrement à moi, maximum un mois, six mois, tout cassé, un an, il est là. Preuve en est qu'il y a des Katyushot qui tombent sur la terre d'Israël. Le rapport, il y a peut-être un rapport. Ma femme, avec beaucoup d'intelligence, ça fait 20 ans que je dis ça, je suis plus crédible. Elle a raison. Donc ne me croyez pas. Je suis absolument convaincu que Mashiach arrive demain. Mais ça fait 20 ans, comme n'importe quel bon juif, que je suis convaincu que Mashiach arrive demain. Rien n'a changé entre hier et aujourd'hui. Si ce n'est que oui, lorsqu'on voit des signes où ça va mal pour Amisraël. Alors on espère que ça va aller mieux bientôt et que c'est encore un degré qui nous rapproche de l'époque messianique. Une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui on est plus près qu'hier. Et demain on sera plus proche qu'aujourd'hui de la venue du Messie. Mais est-ce qu'on peut dire ça y est? Sincèrement, non. Est-ce que je suis convaincu que ça y est? Sincèrement, oui. Est-ce que je me trompe? Sûrement. Parce qu'aujourd'hui je suis toujours trompé. Il y a bien un jour, je ne me tromperai pas. Oui, ok, mais après 100 fois, 1000 fois que tu es trompé, une fois que tu ne te trompes pas, c'est normal. Donc il faut surtout pas rentrer dans une psychose et croire que. Est-ce qu'il faut quitter la terre d'Israël? Absolument pas. Absolument pas. Tant qu'il n'y a pas un danger imminent, et actuellement il y a des endroits en terre d'Israël qui ne sont pas en danger, il n'y a aucune raison de quitter la terre d'Israël. Aujourd'hui, le Rav Shark, le Rav Eliashiv a dit, aujourd'hui, il n'y a aucun endroit qui est sûr dans le monde pour les juifs. Aucun. T'es pas mieux en France, t'es pas mieux nulle part. En grosse ligne, on peut dire qu'il est vrai. Il y a une chose qui change dans les dernières années par rapport au reste de l'histoire de 2000 ans. On a ici Parashat Chayei Sara. À la fin de Chayei Sara, on raconte la mort de Ishmaël. Ishmaël, le fils d'Abraham. Il est marqué qu'il a vécu 137 ans. Il est mort. Veshkenu mechavila atchou asher alpne mitzrayim boach ha'ashtura. Ces peuples, des peuples, donc des descendants de Ishmaël, ont demeuré depuis Chavila, c'est un endroit, jusqu'à Chour, en face de l'Égypte, en venant à Ashur, à Pnekolé Rabnafal, en face de ses frères, il s'est étendu. Il s'est étendu, ça veut dire, Rach explique, il a campé, il a étendu ses tentes. Ça, c'est le sens simple. On a, dans les écrits de la Torah, toujours différents niveaux d'explication. C'est le sens simple. Et il y a ce qu'on appelle le drash. Le drash, c'est plus profond, plus allégorique. Le mot nafal, s'étendre, comme en français. S'étendre, ça veut dire je m'étends, j'étends mes tentes. Ou je m'étends par terre. Boum. Mort. Le Baal HaTourim, un des grands rabbins du Moyen-Âge, très grand, qui a son commentaire sur n'importe quelle page ici de Chumash, dit, le verset que nous voyons après, c'est le début de Parashat Toldot, Voici les engendrements de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham a engendré Yitzhak. Pourquoi est-ce qu'on nous raconte que Ishmaël, 7 ans, et juste après, que voici les engendrements de Yitzhak, fils d'Abraham, pour nous dire, lorsqu'à la fin des temps, comme ça dit le Balatourim sur place, déjà au Moyen-Âge, lorsqu'à la fin des temps s'étendra Ishmaël, alors viendra le Messie, le Mashiach, qui est l'engendrement de Yitzhak ben Abraham. Là, on apprend, le jour où tu vois Ishmaël qui tombe, Mashiach arrive. Mais pour tomber, il faut qu'il monte d'abord. Yakou Shimoni dit déjà, Yakou Shimoni, ça date du 6e siècle de l'ère chrétienne, que le Mashiach, il pousse sur Ishmaël. Ishmaël, il est là pour amener le Mashiach. Ishmaël, il est là pour nous faire tchouva. Comme dit Pirkei de Rabbi Eliezer, c'était écrit il y a 2000 ans, pourquoi s'appelle-t-il Ishmaël? Ishmaël signifie Dieu écoutera. Qu'à la fin des temps, Ishmaël vont faire du mal au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël va crier vers Dieu, Dieu sauve-nous. Et Ishmaël, et Dieu écoutera, et nous sauvera. Le but d'Ishmaël, c'est qu'on fasse tchouva. Donc lorsque nous voyons que dans une force, il y a une force qui monte dans le monde, c'est Ishmaël, effectivement, pour nous, ça veut dire, attention, nous sommes ici à l'époque dernière, qui, je répète, peut durer une semaine, peut durer 10 jours, peut durer 10 mois, peut durer 10 ans, peut durer 10 fois 10 ans. Je ne suis pas, ni prophète, ni fils de prophète. J'attends, oui. Je suis convaincu pour bientôt, oui. Je me trompe toujours, oui. Pas me prendre au sérieux. En grosse ligne, quand tu vois que dans le monde Ishmaël monte, ça correspond aux écrits qui datent d'il y a plusieurs fois millénaires, qu'à la fin il y a Ishmaël, et quand il tombe, Mashiach il vient. Maintenant, personne... Et pour faire pour savoir quand viendra Mashiach, c'est marqué au contraire celui qui fait des calculs, et j'ai des calculs, qui tombent sur cette année, sur l'année prochaine, c'est marqué, il y a une promesse que tout ceux qui font des calculs, ils se trompent. Donc voyons, on n'est pas plus avancé. D'accord ? Chaque année, on a fait calculs fantastiques, qu'on va, cette année, c'est pour de bon, et chaque année, on se fait avoir. Mes anciens élèves me disent, vous n'êtes plus crédible. Ils ont raison. Je ne suis pas crédible. Il ne faut pas me prendre au sérieux. Le petit, plus que je pourrais dire, un truc sympa que je viens d'y penser il y a quelques minutes, c'est que on a la paracha de la semaine passée, c'est quand même aussi intéressant de voir que la semaine où a commencé cette grande guerre contre le Hezbollah, Hezbollah en français, je le dis en hébreu, Hezbollah, en arabe, Hezbollah, d'accord, c'est son vrai nom, c'est la paracha, on venait de dire la paracha de Balak. Balak, le prophète, le plus grand prophète juif qui ait connu le monde, s'appelle Moshe Rabbeinu. Mais l'avant-dernier verset de la Torah nous dit, « Velokam Navi » qui est Moshe Od Beisrael. Il ne s'est plus levé encore un prophète aussi grand que Moshe dans le peuple d'Israël. Chazal nous dit, dans Israël, il ne s'est pas levé. Il n'y a pas eu de prophète plus grand que Moshe Rabbeinu. Mais parmi les peuples des nations, s'est levé. Qui c'est? Bilham. Bilham, qui est le plus grand prophète qu'ont connu les nations, qui a un pouvoir extraordinaire, égal à celui de Moshe Rabbeinu, mais chez les Goïm. Et la Torah nous raconte que par trois fois, il va tenter de maudire le peuple d'Israël, Dieu fera un miracle, à la place d'une malédiction, qui se serait réalisée parce qu'il a un pouvoir énorme, Dieu va changer tous les ordres métaphysiques du monde, et à la place d'une malédiction, va sortir une bénédiction. Balak, le roi qui a loué les services de Balaam, de Bilham, pour une forte somme, est fou furieux, et dit, toi, Bilham, le prophète, tu as un prophète, tu as un pouvoir serré dans ta bouche, au lieu de maudire, comme je t'ai demandé, comme je t'ai payé, maintenant tu as béni, donc moi je suis non seulement fichu, je suis archi-fichu. Déjà, moi j'étais fichu contre Israël, maintenant tu as béni, tu as archi-fichu. Et lui dit, brach el mekomecha, fuis, repars d'ici. Et il envoie comme ça, vraiment balader. Bilham, qui n'est pas n'importe qui, le plus grand prophète de tous les temps chez les Goïm, dit, oh, à qui tu parles? Maintenant, moi je vais te parler de toi, de ce qui t'arrivera, et ce qui arrivera à la fin des temps. Baharit ayamim, comme c'est marqué dans la paracha qu'on a lu la semaine passée. Et il raconte la fin des temps. Deux versets. Le premier nous dit une chose qui est très claire. Vaïssa, Meshalo, Vayomar. Il a proféré son oracle et il a dit Oi, mi yirie, mi sumoel. Malheur. Mi yirie, qui pourra survivre, mi sumoel, par rapport sumo, de ce qu'il va mettre, des décrets que va décréter, elle, Dieu. Qui pourra survivre par rapport aux décrets? Avant que le Mashiach arrive, c'est une époque difficile, c'est comme un accouchement. La femme, elle souffre, il y a des douleurs, c'est étroit, c'est très difficile. À la fin, vient l'accouchement. Quand il vient, on ne sait pas. Qui a des signes précurseurs, on les voit, on hurle. C'est terrible. Je crois qu'il n'y a aucun siècle plus dur de toute l'histoire juive que ce dernier 20e siècle. La Shoah, Staline, les guerres d'Israël, la souffrance, l'assimilation, la guerre spirituelle, combien de juifs ont quitté, combien de juifs sont mariés avec des non-juifs, combien on a des cas de mariage mixte avec des enfants de mères juives mais de pères non-juifs, ou le contraire, c'est aujourd'hui, c'est presque un standard. Tu n'as pas de famille juive dans laquelle tu n'as pas quelqu'un qui fait un contenu non-juif, c'est extrêmement rare, extrêmement rare. Ça aussi, c'est oï, c'est malheur, malheur, oï, myriel qui pourra survivre par rapport à ces décrets difficiles de Dieu. Alors, Rav Chaim Wasserman, qui était le plus grand rabbin du judaïsme avant la Seconde Guerre mondiale, a déjà annoncé, lui, il est mort, il a été tué par les nazis, mais il a annoncé que Ikvedat Meshich, à l'époque pré-messianique, a déjà débuté le jour du 9 Av Tisha B'Av de l'année Tir'ad. Tir'ad, c'est tu trembleras. C'était l'année 1914. Le jour où a commencé la Première Guerre mondiale, c'était le jour de Tisha B'Av. Ce jour-là, il dit, ont commencé les douleurs d'enfantement du Messie, qui s'étend jusqu'à, bien sûr, aujourd'hui. Espérons que bientôt Dieu dira « Daï » dira « Halte à nos souffrances ». Ce qui est intéressant, c'est que ce verset qui parle de la fin des temps, « Oï, on va souffrir, misumo el » par rapport au décret que Dieu va mettre. Alors déjà le Midrash, le Zohar, dit, il y a un jeu de mots. Comme on dit très souvent, c'est que le Midrashim et le Zohar font des jeux de mots. Comme on dit à la fin de la prière, « Atikra, l'ichot et la lachot », on fait des jeux de mots au niveau de la consonance. « Sumo el », qui pourra survivre, misumo el par rapport au sumo el. Le Midrash, le Zohar dit, qui pourra survivre par rapport à Ishmael? Soumoël, ça ressemble à Ishmael. Donc, qui est l'agent qui va provoquer toutes ces douleurs d'enfantement? À la fin, c'est Ishmael. Comme ça, c'est écrit il y a 2000 ans dans le Zohar. Il y a un autre Midrash, qui est plus précis pour notre époque. Je ne sais pas, ce que je dis maintenant, c'est une spéculation. Je peux me tromper, ne me croyez pas. C'est un signe sympathique, un petit clin d'œil, si c'est véridique, sérieux ou pas, je ne sais pas. On a un midrash, qui est peut-être le plus vieux midrash que nous avons, c'est Pirkei Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer à Gadol, c'est un Baal Tshuva, il a fait Tshuva à l'âge de 28 ans. Il est Rabbi Eliezer, le grand Rabbi Eliezer. Le premier rabbin qui est rappelé dans la Gemara, c'est Rabbi Eliezer. On a mis un Rabbi Eliezer, d'accord? On dit que c'est un Gilgul de Moshe Rabbeinu. C'était un grand, grand comparable. Il a écrit un midrash, Pirkei Rabbi Eliezer, et là, au chapitre 30, il dit comme ça. Hoil vishva kesh boruchu shmo shel Israël shmo shel Ishmael. Vu que Dieu de façon pareille a donné son nom à Ishmael comme il a donné à Israël. Le nom de Dieu c'est El. Et il y a ce peuple au monde qui s'appelle, qui a dans son nom le nom de Dieu. El, c'est Israël. Il y en a un deuxième, comme Israël c'est qui? Ishmael. Vu que Dieu de façon pareille a donné son nom à Ishmael comme il a donné à Israël, il en résulte, oi, comme ça écrit le Midrash, oi mi yichye beyamav, qui pourra survivre à son époque, comme il est dit, et il cite ici le verset de Bilham que je viens de dire, oi mi yichye misumoel, qui pourra survivre par rapport au décret de Dieu, disant que c'est Ishmael. Mais pourquoi Ishmael? Parce que Ishmael, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a le nom de Dieu en lui. Il se bat au nom de Dieu. C'est quelqu'un qui sert Dieu. Le Rabbi Chaim Vital, un des plus grands kabbalistes de tous les temps, écrit il y a 500 ans, de plus, il est fils d'Abraham, donc il est béni. Et Abraham a imploré Dieu, béni, que béni Dieu. Et Dieu l'exauce, il est béni, il est circoncis, donc il a une alliance, brite, c'est une alliance avec Dieu. Il sert même Dieu que nous, donc il a du mérite. Alors moi je dis comme ça, hein. C'est pas tout Ishmael. Ça va. Aujourd'hui tu peux aller avec un pasteur israélien au Maroc, tu te fais pas trucider, ça va. En Syrie, c'est un peu plus dangereux, c'est vrai, mais ce n'est pas tout Ishmael. Il y a un noyau dur, la Syrie, l'Iran, le Hezbollah, le fondamentalisme arabe, djihad. Ceux qui se battent, qui comprennent ce qu'il faut, qui comprennent dans l'islam qu'il faut liquider Israël. Ça, c'est le noyau dur. L'Iran, la Syrie qui est le terroriste mondial, et leurs envoyés aujourd'hui, c'est le Hezbollah et le Hamas. Alors, je dis, c'est une chose sympathique, parce que, comment est-ce que on dit Dieu en hébreu, on a vu elle. Comment eux ils disent Dieu? Allah, c'est le même mot. Allah, ça vient de elle, comme beaucoup de mots arabes viennent de l'hébreu. Allah. Qui se bat au nom de Allah? Hezbollah. C'est quoi Hezbollah? Hezbollah, c'est le parti de Dieu. T'as des partis politiques, t'as le parti à gauche, t'as la droite, t'as le Hezbollah, le parti de Dieu. Ils se battent au nom de Dieu. Leur dirigeant, comment il s'appelle? Nasrallah. Nasrallah, c'est Nasr, ça vient de Nitzachon en hébreu. Celui qui gagne, il gagne au nom de Dieu. C'est le vainqueur au nom de Dieu. Ce sont des personnes qui se battent au nom de Dieu. Tous les shahids, tous les Hamas, tous ceux qui se battent contre nous aujourd'hui, ces ennemis qui sont prêts à se donner la mort, ils se donnent la mort pour Dieu. Ils disent Allahu Akbar, ils sautent. Oi, malheur, ni rien qui pourra survivre, ni Ishmael, que celui qui se bat au nom de elle, au nom de Allah. On touche aujourd'hui terriblement de ces combattants de Dieu. Ce n'est pas tous les Arabes. Si je le rappelle bien, c'est le fondamentalisme arabe au nom de l'islam, ce que l'islam ne veut pas. Et eux traduisent ainsi. Qui est la source du Hezbollah ? L'Iran. Maintenant, encore une fois, je ne sais pas ce que nous réserve le futur. Je veux prendre des textes et dire, regardez, il y a certaines corrélations entre un futur éventuellement proche et les textes. Mais nous ne sommes pas des prophètes, nous ne sommes pas fils de prophètes, nous ne sommes pas le futur. L'Iran en en parle. D'abord, il est marqué qu'à la fin des temps, toute cette pression pour faire naître le Mashiach s'appelleront les Gog de Guerre ou Magog. Guerre de Gog ou Magog. Qu'est-ce que c'est Gog ou Magog? Gog, c'est le nom, le surnom d'un roi, qui est le roi d'un pays qui est surnommé Magog, et d'où viennent ces noms-là? D'une prophétie marquée noir sur blanc dans Yéhézkel, Ézéchiel, chapitre 38. Il est marqué là-bas, je vous la sors rapidement, je n'ai pas voulu lire en entier, c'est marqué que Dieu, un beau jour, va tenter, va mettre des hameçons dans la bouche de ce roi Gog, lui donner des idées d'aller conquérir la terre d'Israël, sur laquelle seront recueillis les Juifs qui étaient parmi les peuples nombreux. Maintenant, ils sont recueillis en terre d'Israël, ils vivent paisiblement, ce qui correspond à la réalité. Il dit les villes seront repeuplées, la terre sera de nouveau défraîchie, la terre sera de nouveau colonisée comme il se doit, la vie reprend en terre d'Israël, sur une terre qui était aride pendant 2000 ans. Le peuple d'Israël, il vit, recueille donc les peuples. Vient ce roi Gog, Dieu lui met des crochets dans la bouche pour le faire sortir de son pays, et lui, accompagné avec beaucoup de peuples, viennent en guerre contre le peuple d'Israël. Il y a une prophétie qui est positive de Gog et Magog, c'est-à-dire chapitre 38. Quand Gog, avec ses armées, met son pied sur la terre d'Israël, Dieu se dévoile, envoie sur lui des pluies torrentielles, du soufre, des météorites, des grelons, du feu, tout un. Dieu se dévoile. Et le monde entier reconnaît, c'est la prophétie annique, c'est marqué Vit Gadilti, là-bas dans Yéhézkel, c'est marqué Vit Gadilti, je me grandirai avec Kadishti, je me sanctifierai aux yeux des nations nombreuses, et tous reconnaîtront que je suis l'Éternel. Ce que nous disons toujours dans le Kadish, Et Gadal et Kadash Meiraba, que soit agrandi et soit sanctifié son grand nom, c'est une prière que nous faisons à propos de Gog et Magog, que enfin vienne ce jour où Dieu se dévoilera. Enfin, aujourd'hui, on vit dans un monde d'obscurité, nous attendons ce grand jour que Dieu vienne et se dévoile. C'est-à-dire à propos de quoi? À propos d'un dévoilement de Dieu dans Gog et Magog. Donc cet ennemi qui vient contre nous, il vient d'où? C'est marqué très clairement dans Ézéchiel 38, tu viendras de ta résidence du fond du nord. Il vient du nord. Donc c'est à choix le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran, la Russie. Tous nos meilleurs amis. Hein? Ou tous ensemble. Si on regarde plus précisément, on a un psy karabati, un midrash qui date aussi d'il y a 1700 ans, qui est la chose suivante. Amar Rabbi Shimon ben Pasi. Adi Rabbi Shimon ben Pasi. Botacha, à ce même moment, au moment du développement du Mashiach. La Mashiach Adashamaim. Dieu va soulever le Mashiach jusque dans le ciel. Ou pour es Allah Mizil Kivodo. Il le recouvre de sa gloire. Mipne Umotolam pour le protéger des peuples de la terre. Tous les peuples de la terre voudront dévorer le Mashiach. Comprenez que quand le Mashiach il arrive, c'est fini. Tout le mensonge il disparaît. Tous les politiciens à la voix de coco ils disparaissent. Toutes les boîtes industrielles qui nous vendent, n'importe quoi, toutes les banques qui nous volent, tout le mensonge disparaît. Hein. Au niveau la bourse, c'est un malheur terrible que Mashiach il arrive. D'accord, la bourse, tout tombe, se crache. Donc il faut régler le problème, il faut éliminer ce dérangeur de tourner en rond. Le Mashiach, ça dérange le monde. Donc le monde entier voudra s'unir pour le liquider. Donc Dieu va le prendre, le monter jusqu'au ciel, maintenant on passe les choses. J'imagine une chose imagée, Dieu va faire monter au niveau spirituel le Mashiach qui sera intouchable, le recouvre de sa gloire pour le protéger des peuples de la terre qui voudront sa fin. Et là, le point intéressant, de plus, pour le protéger des peuples de la terre et Mipne de Parseim Arechaim, des Perses, Rechaim, mécréants. C'est qui les Perses? L'Iran. Comme quoi l'Iran serait un des fers de lance contre Mashiach. Donc, on pourra faire une corrélation, qui je ne sais pas quel poids elle a, entre le fou qui s'est monté il y a quelques mois, il s'est monté lui-même, d'accord, il a truqué les élections, il est devenu le numéro 2, le numéro 1, il s'appelle El Khamenei. Mais celui qu'on entend parler toujours, c'est le numéro 2, Mahmoud Ahmadinejad, qui lui, tout à coup, se lève et dit, il a dit encore aujourd'hui, que Israël se comporte comme, comme Hitler, comme les nazis, et etc., que Israël n'a pas droit à la vie, et comme un morceau de roseau rouvant, il va être ballotté bientôt, et il écrit que, bon, en deux mots, dans son plan pour amener, j'ai ici un article qui est apparu, dans Washington Post, la date, Washington Post, du 16 décembre 2005, traduit par Albert Soued. Je ne lis pas tout l'article, juste un petit passage intéressant. Mais il y a pire, ce président d'un pays où sur le point d'avoir recours à l'arme nucléaire est un croyant fervent et un adepte de l'apocalypse. Nous aussi on y croit, Moshe Rabbeinu, nous aussi on y croit. Comme dans le judaïsme, en islam chiite, on croit au retour messianique du 12e imam, prétendument caché dans un puits. Les croyants plus mystiques vont prier à la mosquée de Jamrakan, qui contient un puits d'où est censé émerger l'imam tant attendu. Lorsque, à l'étonnement de tous, Ahmadinejad a été élu président de l'Iran, il s'est empressé de débloquer 17 millions de dollars en faveur de cette mosquée. Le mois dernier, il a déclaré publiquement que la mission primordiale de la révolution islamique était de paver la voie à la réapparition de l'imam caché. Et comment est-ce qu'on fait pour paver la voie à l'imam caché? Ça ne peut pas passer autrement que par l'élimination physique du peuple d'Israël. L'islam, pour devenir l'islam messianique, doit éliminer Israël. Nous habitons la terre sainte de l'islam. Comme ça prétendent les fondamentalistes. L'islam n'a jamais dit ça. Le Coran n'a jamais dit ça. C'est l'invention des terroristes, d'accord? De Bin Laden et de Nasrallah et tous ses copains. Comme dans les versions extrémistes chrétiennes relatives au second retour de leur prétendu sauveur, cette réparation sera accompagnée de troubles, de destruction et de morts. Le journaliste iranien Hossein Bastani a rapporté que selon la déclaration d'Ahmadinejad, au cours de réunions officielles, l'imam caché réapparaîtrait dans 2 ans. Ça devait être déjà 6 mois, donc il n'y a plus qu'un an et demi. C'est un show. Un fou show de Dieu. Maintenant, comment je vois les textes qui me disent qu'à la fin des temps, il y a un danger de Ismaël fondamentaliste au nom de Allah, plus précisément de l'Iran. Je ne peux pas ne pas faire un petit rapport. Maintenant, qu'est-ce qu'il vaut? Je répète, que ce soit bien clair aux yeux de tous. Je me trompe complètement. Peut-être demain, il n'y a plus rien, et lui, il est éliminé, donc il va à la place, démocratie, qu'est-ce que j'en sais? Tout rentre dans l'ordre, et ça sera pour une autre cadence. Nous ne savons pas comment ma chère reviendra. Le Rambam que j'ai écrit il y a 900 ans, on n'a aucune tradition claire à ce niveau. Il y a des midrashim qui sont contradictoires. Alors tu vois ici une chose qui dit, tu vois autre part aussi le contraire. C'est intéressant, pas plus. Que Mashiach vient demain, on doit le croire à fond. Que peut-être il vient pas demain, ça se peut aussi. Il ne faut pas devenir fou, c'est tout. Il faut y croire, et quand on voit que ça va mal pour Israël, il faut pleurer et faire tchouva. Continue ce Midrash, et nous dit, Omer lo, Dieu lui dit, Ephraim, Mashiach, c'est qui? Ephraim, mon Mashiach, mon juste Mashiach. Hevedayan al Elu, juge cela. Et fais d'eux ce que tu veux. Car si ce n'était ma miséricorde qui s'est renforcée à ton propos tellement, tellement beaucoup, déjà il t'aurait perdu du monde en un instant. Ephraim, c'est aussi le nom du peuple d'Israël. C'est un des aînés de Yaakov Avinu, l'aîné qu'il appelle Bechor. Le chor de Yaakov, c'est Yosef. Et l'aîné de Yosef, c'est Ephraim. Tous les fils aînés, Yaakov, Yosef, Ephraim, sont appelés le peuple d'Israël. Ils seraient appelés ou Yaakov, ou Ephraim, ou Yosef. Il t'aurait déjà perdu du monde en un instant. Qui aujourd'hui est capable de nous perdre en un instant? Bombe atomique. Que Ahmadinejad est censé obtenir incessamment sous peu. Ou par d'autres moyens. Je ne suis pas prophète, ni qui se prophète. Comment est-ce qu'il est, il a des missiles, il peut avoir seulement des gaz. C'est pas pour aujourd'hui d'avoir dans nos cauchemars les pires des spéculations de projets comment demain l'Iran attaque Israël. C'est pas une chose qui est complètement folle. Aujourd'hui, oui, parce que il n'y a aucun intérêt aujourd'hui l'Iran d'envoyer des bombes. Il sait qu'il va se faire ratatiner. Israël non plus n'a aucun intérêt à rentrer en conflit avec l'Iran. L'Iran a dit que si Israël attaque la Syrie, alors tout le monde islamique va se lever contre nous. Je pense qu'Israël est suffisamment intelligent pour ne pas rentrer en guerre avec la Syrie, ça ne servira à rien. Nous, on veut éliminer maintenant nos ennemis qui sont à Gaza. Là, une partie des ennemis, les casse-pieds qui empêchent de tourner en rond, et à Gaza, le Hamas, et au Liban, le Hezbollah. On fait pression sur le Liban pour qu'il se débarrasse du Hezbollah. La Syrie n'ose pas se mettre en conflit directement avec nous, et nous, on ne veut pas se mettre en conflit directement avec eux. Maintenant, je ne suis pas prophète, ni fils de prophète. Si demain quelque chose arrive, alors je ne sais pas ce qui peut se passer. Qu'il y ait un conflit avec l'Iran, c'est possible. Aujourd'hui, ça n'a pas l'air tout à fait, en tout cas en géopolitique, à courte portée, rien ne le montre. Mais on n'est pas prophète, et demain tout peut changer. Il suffit qu'un petit Dieu, s'il veut, peut faire que dans deux jours, c'est pas compliqué. Dans deux jours, l'Iran possible, on va envoyer des missiles ici. Et demain, Israël envoie peut-être la bombe atomique. Je ne sais pas, je ne suis pas prophète, fils de prophète. Ce que je sais, c'est qu'on voit à la fin des temps, il y a l'Iran qui monte, c'est parti de Ishmaël, ça correspond à notre texte. Quand ça sera, je l'ignore complètement, et qu'on ne dise pas en mon nom des choses que je n'ai pas dit. Je mets en rapport les textes avec ce qui se passe, qui sont très vagues. L'Iran, on parle de l'Iran à la fin des temps, c'est tout. Et que pour aujourd'hui, l'OEDA, je ne sais pas, je ne suis pas prophète. Encore un midrash qui nous parle de l'Iran. Alors qu'est-ce qu'on a vu déjà? On parle de l'Iran, qu'il va nous dévorer en... qui va nous... Ibdoura, vont te perdre en un instant. C'est intéressant, avant de parler de ce midrash, je vais vous montrer un autre midrash. Sanhedrin. Traité Sanhedrin, page 97b. Il y avait une grande discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dit une chose que tout le monde sait. Si Israël font tshuva, ils seront sauvés. Sinon, ils ne seront pas sauvés. Il est impossible que le Mashiach arrive, comme ça le Rambam il est tranche aussi, Maïmonide. Il est impossible que Mashiach arrive, marqué comme ça dans le livre de la connaissance, dans les trois tshuva du Rambam, chapitre 7, le peuple d'Israël ne peut être sauvé que par la tshuva. Il est impossible que la délivrance arrive sans qu'on fasse tshuva. Qui, combien, j'ignore. Le mouvement de tshuva en Israël, c'est certain. Est-ce que c'est suffisant? Je l'ignore. Certainement pas, parce qu'on voit qu'il y a encore des morts et on ne devrait pas avoir des morts. Si on fait une grande tshuva, il n'y aura aucun mort. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des blessés et des morts, du sang qui coule et des larmes qui coulent dans le peuple d'Israël. Aucune raison. Nous sommes les enfants de Dieu. Et si on était tous des gens bien, alors Dieu ne permettrait pas qu'il y ait des gens qui meurent. Donc il faut qu'il y ait plus de tshuva. Et impossible qu'on soit sauvé sans tshuva. Je réponds à Yoshua. Si tu me dis maintenant qu'il faut qu'Israël fasse tshuva pour qu'on soit sauvé, alors si on fait tshuva, on sera sauvé. Et si on fait pas tshuva, on ne sera pas sauvé. Tu as du courage. Hein. Tu attends que tout Israël fasse tshuva. On n'est pas sorti de l'auberge, en bon français. Alors Rabbi Eliezer dit, il faut dire autrement. Rabbi Yoshua dit, il faut dire autrement. Si on fait tshuva, on sera sauvé. Sinon, Dieu, Ma'amid lahen melech, Dieu va lever contre Israël un roi. Shegzerotav kashot kahaman, dont les décrets sont durs comme ceux de Haman. Israël chosem et tshuva, Israël feront tshuva, marzalim et moutav, et reviendront vers la bonne voie. C'est-à-dire que ou on fera une tshuva intelligente, parce qu'on a compris que c'est vrai, et on revient dans le bon chemin, ou qu'on comprend pas par la tête, on comprend par les coups. Comme un gosse à qui tu expliques maintenant qu'il doit faire son exercice de maths, et il veut jouer au foot, tu lui expliques 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, tu lui expliques gentiment. Il dit, j'ai très bien compris papa, mais je veux le foot. Alors tu comprends que la tête a compris, le corps n'a pas compris. La connexion entre la tête et le corps qui ne fonctionne pas. La tête a très bien compris que la faire ses maths. Le corps ne veut pas, il veut le foutre. Alors tu pars au corps. Tu vois ma main? Alors fais tes maths maintenant. On parle au corps. Ça c'est le langage crétin idiot pour les gens qui n'ont pas compris la tshuva intelligente. On passe à la tshuva qui est dure. Ça c'est le sang qui coule. Si Amisraël ne fait pas tshuva intelligemment, il fera tshuva bêtement. Comment? Dieu mettra contre eux un roi dont les décrets sont durs comme ceux de Haman. C'est pas marqué qu'il va. C'est quoi Aman? Aman sont un jour éliminer le peuple juif. Aman. Aman veut en un seul jour, 13 du mois de Hadar, éliminer le peuple juif physiquement, terminer plus rien. Dieu mettra un roi, il y aura une menace de la part de ce roi d'éliminer le peuple juif en un instant. Alors comment est-ce qu'on peut faire éliminer le peuple juif en un instant? Ça peut être une bombe atomique, ça peut être des gaz, ça ne manque pas aujourd'hui de moyens de faire sauter la terre d'Israël assez rapidement, à Dieu ne plaise. Ce qui est intéressant, encore une fois, entre guillemets, un petit clin d'œil du bon Dieu, je ne sais pas ce que ça vaut. Parce que Haman habitait quel pays? La Perse, l'Iran actuel. Il était le dirigeant numéro 2. Aujourd'hui, on a de nouveau un Haman comme ça, qui menace. Qui menace, attend qu'il ait dans la main la bombe atomique. Ou attend qu'il ait ses missiles Shahab avec les gaz déjà en route. Après, quel choix on va faire? Intéressant aussi de voir un autre commentaire, que ce soit un Tehilim que nous lisons tous les matins. Tehilim 124. Shir Ma'alot le David. Cantique des degrés à David. Oulé Hashem Shayalano Yoman à Israël. C'était Dieu qui était là pour nous sauver, dire à Israël. Oulé Hashem Shayalano, c'était Dieu qui était là pour nous sauver. Bekum Alenu Adam, lorsque le s'élèvera contre nous un homme. Azai Haim Laounu, alors vivant, il nous aurait dévoré. Suite, la suite après du lisement Tehilim, ce chapitre de Tehilim continue. Rabbi Haim Vital, le plus grand kabbaliste de tous les temps, a commenté ce Tehilim il y a déjà 500 ans. Il dit, pourquoi est-ce qu'il y a une répétition? On commence. Si ce n'était Dieu qui était là pour nous sauver, dira Israël. Si ce n'était Dieu qui était là pour nous sauver, lorsqu'on se lèvera contre nous un homme, alors vivant, ils auraient dévoré. Pourquoi tu répètes deux fois si ce n'était Dieu qui était là pour nous sauver? Il a dit déjà une fois, non, on a très bien compris, pas besoin de répéter. Il dit, il y a deux choses. Il y a les quatre premiers exils. Le peuple d'Israël était en exil sous quatre royautés. L'Égypte, Babylone, la Perse et Rome. Ces quatre exils, ce sont quatre royautés qui ont asservi le peuple d'Israël. À la fin, dit-il, il y aura un cinquième. Durant les quatre premiers, on dira, si c'était Dieu qui était là pour nous sauver, alors on aurait déjà disparu. Grâce à Dieu, on a survécu à tous ces exils-là, à toutes ces royautés. Le dernier, il sera plus dangereux. Pourquoi? Si ce n'était Dieu qui était là pour nous sauver, lorsque se lèvera contre nous un homme. Qui est appelé homme dans la Torah? Ishmaël. Père Adam. Il est appelé homme. Il parle, il dit à la fin, après les quatre royautés, il y en a une autre qui s'appelle Ishmaël. Il dit ça il y a 500 ans. Qui sera plus dangereuse que les autres. Pourquoi elle sera plus dangereuse? Parce que là, le mérite qu'elle sert Dieu. Elle est fils d'Abraham, elle fait la Brit Mila, etc. Comme explique là-bas. Azai, Haïm, Blan, ou alors vivant, ils auraient dévoré. Bloup! Comment on fait pour dévorer quelqu'un vivant? Bloup! T'as pas le droit de dire ouf! Il y aura une menace de mort rapide. Ce qui est intéressant, c'est que ce mot Adam, dans ce Tehilim 124, dans le traité de Migah qui est très de pourri, on dit Adam dont on parle ici, c'est Haman. De nouveau, on retombe sur le numéro 2 de Perse. Alors, il semblerait qu'il y ait une corrélation. Qu'est-ce qu'elle vaut encore une fois? Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Je continue quand même dans la même lancée. Et je vous dis ici ce Midrash, vous l'oubliez auparavant déjà, qui est sympathique. Adir Abi Yitzhak, d'où c'est le Midrash? C'est Yakushimoni, Yeshaya 59. Adir Abi Yitzhak, Shana Shemelech HaMashiach Niglabo, l'année où se dévoile le Mashiach. Kol Malche Omot Milgarim Zebazé. Tous les rois de la terre se querellent. Il y a des querelles. La Corée du Nord, bien sûr, Israël, Ben Laden. Vous me direz, c'est une chose habituelle. Je suis entièrement d'accord avec vous. Rien n'a changé. Melech Paras Milgarim Melech Arabi. Un roi perse se querelle contre un roi arabe. Qu'est-ce que c'est? J'ignore. C'est toi. Entre l'Iran et l'Irak. La Perse, on sait c'est où? C'est l'Iran. Contre quel roi arabe? J'ignore. Peut-être on dit qu'il y a une concurrence entre l'Arabie saoudite et l'Iran pour être le leader du monde ismaélite, du monde islamique. J'ignore. Encore une fois, je vous lis ce qui est marqué sans pouvoir dire beaucoup plus. Volech Melech Arabi, va le roi arabe, la Aram, dans un pays qui s'appelle Aram, L'étoile est à même prendre conseil d'eux. Ce roi arabe, on ne sait pas qui c'est, va prendre conseil chez un pays qui s'appelle Aram. Qui c'est? J'ignore. Mais Roser Meler Paras, revient le roi de Perse. Ou Machriz et Kol Aolam. Et détruit le monde entier. Correspond au Washington Post. Avant un an et demi, l'imam caché doit se révéler et sera accompagné par des malheurs dans le monde entier. Mais tous les peuples de la terre font du bruit et sont terrorisés. Le film à pleine tombe sur leur face. Ils seront pris de contractions comme une femme qui accouche. Des maux de ventre terribles. On accouche le Messie. C'est terrible. Israël, Mitrachim, Bahalim, les peuples d'Israël font du bruit, sont apeurés, sont terrorisés. Vos mères, les juifs, pas marqué à propos des peuples, uniquement à propos de juifs, c'est marqué les Hannavo Venelech, les Hannavo Venelech. Et les peuples juifs disent où aller, que faire, où aller, où venir, où aller, où venir. On vous a posé la question au moins 10 fois aujourd'hui. On rentre en France ou on reste en Israël? On va en France, on reste en Israël, on va en France, on reste en Israël. En France c'est dangereux, en Israël c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on fait? Qui, quoi, comment, où aller, où venir? Ça. L'aéroport va être bloqué, là-bas y aller, on ne sait pas, il y aura des émeutes, on ne sait pas, personne ne sait. Ça, c'est encore rien, attendez que ça monte là, aujourd'hui c'est peinard. Attendez que là, socialement, ça va être. Tout de suite, alors je vous dis tout de suite. Je vous pose la question, moi, il y a peut-être 15 ans, 13 ans, un ou deux, trois plus grands rabbins du monde, l'arbre de Saint-Machin. Je le dis, c'est marqué, clairement, on vient de le voir, Gog ou Magog, c'est marqué, ils viennent du Nord. Donc comme je dis à choix, c'est Liban, Syrie, Irak, Iran, Russie, ou tous ensemble. C'est marqué, ils viennent d'où? Ils vont venir sur la terre d'Israël. Donc on va commencer à avoir des millions de Gog ou Magogiens venir dévaler sur les pentes ici de direction Jérusalem. Alors, réaction normale, je dis, qu'est-ce que je fais? Je prends ma voiture, ma famille, je descends vers le sud, et là, d'accord? Puis c'est éloigné. Alors, est-ce qu'on reste à Jérusalem? On va à Elat. Alors, il m'a répondu comme ça. On reste ici à Jérusalem. Donc, ceux qui me posent la question, je ne prends pas aucune responsabilité, je dis que la question que j'ai posée il y a 13 ans à un grand rabbin, il a dit, on reste à Jérusalem. C'est marqué effectivement dans le prophète, ou bien Har Sion Tie Pleta. Sur le nom de Sion, donc à Jérusalem, Tie Pleta, il y aura une ressource. J'aurais dû dire aussi que le rabbin Moshe Shapira, un des grands rabbinim aussi en Israël aujourd'hui, dit que lorsque les miracles ont commencé ici en terre d'Israël, tous nos frères de l'étranger ne pourront plus venir en terre d'Israël. Donc c'est mieux, si on a le choix, il faut venir en Israël. Mais il ne faut pas non plus faire une grande apocalypse now, on quitte la France, on part, Rav Shaya dit que Mashiach revient, j'ai rien dit du tout, ni Mashiach revient, tout continue tranquillement, pépère. Ça sert à venir en Israël sans que tu aies une situation, sans que tu aies des écoles pour les enfants, la situation est très difficile ici. Donc chacun fasse pour le mieux, si possible être en Israël, c'est toujours mieux que d'être en France, c'est certain, c'est certain. Maintenant, est-ce que Mashiach revient? Oui. Plus qu'hier? Oui. Quand? Ça se peut dans 1000 ans. Je ne suis pas prophète. Je ne sais pas. Je n'ai rien dit du tout. Moi, en tant que bon juif, je pense que c'est imminent. J'ai toujours pensé que c'était comme ça. Je me suis toujours planté et je me plante toujours. C'est clair pour tout le monde? En tant que bon juif, tu vas croire que le Mashiach revient demain? Voilà. Rien n'a changé. On n'a ni vu sa barbe, ni le bout de sa barbe. Personne ne sait. Il y a beaucoup de gens qui disent, ça fait des siècles que des rabbins ont dit et des gens ont dit, et il n'y a jamais rien eu. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer à oser dire parce que quelqu'un s'est bougé maintenant, parce que l'Iran est mort, et ma chère, il est là. Lui, il dit, mais nous, on doit le croire à cause de lui. Peut-être oui, peut-être non. À cause de ça, il faut devenir complètement fou? Absolument pas. Est-ce qu'il faut faire tchouva? Toujours. Est-ce qu'il faut prier pour nos frères? Toujours plus. Que tu la Torah? Encore plus. Ça, c'est évident. Mais pas commencer à dire, ça y est. On envoie tout balader, on prend des emprunts à la banque, on ne sait pas comment on va. En toute façon, ma chère revient dans les 6 mois. D'accord? Non, absolument pas. Romain, le peuple d'Israël dit, Lechanavonelech, où aller, où venir, où aller, où venir? Romain la haine, et il leur dit, qui leur dit? Akadosh Baruch Hu, Dieu leur dit, Banaï, mes enfants, Al-Titiarou, n'ayez pas peur. Ça, le jour où, ça, si j'ai raison, comme je me trompe toujours, mais si jamais je ne me trompe pas pour une fois, et vraiment, la sauce prend, et là, ça y est, on est parti sur la dernière ligne droite. Al Titiaro, n'ayez pas peur. Kol Macha City, Loa City, et là, Beshulchem. Tout ce que je l'ai fait que pour vous. Mipnemat et Mitiarim, pourquoi vous vous apeurez? Pourquoi êtes-vous terrorisé? Al Titiaro, n'ayez pas peur. Et Giyad Vandu, la crème, le temps de votre rédemption est arrivé. Une femme, elle accouche, elle hurle, elle hurle. Elle est contente, elle est contente. Il ne faut pas avoir peur. Si elle hurle pour rien comme ça, c'est une maladie grave. Une femme qui hurle comme ça, elle a des maux de ventre pour rien, elle n'est pas enceinte, c'est très grave. Mais si on sait vers quoi on va et le temps d'Aguiloul est arrivé, alors on doit être tranquille. Le jour où on verra devant nos yeux que ça y est, c'est vraiment clair, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je le répète, alors, pas être terrorisé. Il faut avoir confiance en Dieu. C'est marqué que les quelques heures, les 2-3 heures avant le dernier acte du Messie, il y aura des épreuves terribles au niveau de la Emouna, de la foi en Dieu. On va dire tout le contraire, on a une peur terrible. Là, il faut être solide. Alors que Dieu dirige le monde, et je ne dirais pas rien ne peut nous arriver. Mais alors que quoi qu'il nous arrive, c'est pour le bien. Quoi qu'il puisse nous arriver, c'est pour le bien. Et avoir confiance en Dieu. Et c'est précisément cette confiance en Dieu qui fait qu'on peut réussir. Dieu verra qui a confiance en moi, qui est mon peuple. Ceux qui ont confiance en Dieu, remarquez, ça c'est marqué dans Zacharie, la fin de Zacharie 13, d'accord, Gog ou Magog, mauvaise version, celle qui est mauvaise, où ça va très mal à la fin de ma chair se dévoile, mais d'abord il y a une période qui est difficile, c'est marqué à Zacharie 13. C'est marqué qu'un tiers du monde, deux tiers du monde va périr, un tiers va survivre, et le tiers qui va rester, Dieu va l'affiner comme on affine l'argent et l'or. Et le peuple dira, cela est mon Dieu, et Dieu dira, cela est mon peuple. D'accord? Ceux qui diront, ah, Dieu, tu es là, on a confiance en toi. Bon, mais ça, il faut être hyper solide. Alors, je vous dis maintenant, pour le cas où ça arrive bientôt, ou pas bientôt, dans tous les cas, il faut se renforcer en croyance en Dieu, en foi, en Emouna, en étude de Torah, en prière. Alors, Dieu nous dira, n'ayez pas peur, et Guyazman Goula, très bien, le temps de la rédemption est arrivé. Veloq et Goula Rishona, et pas comme la première Goula, celle où on est sorti d'Égypte, la première rédemption. Géoula Prana sera la dernière rédemption. Car la première rédemption a eu après de la souffrance et un esclavage parmi les nations. Mais cette dernière Géoula, il n'y aura plus aucune souffrance, plus aucun asservissement, plus aucun esclavage après cette Géoula, après cette dernière rédemption. Bimera Bimeno. Amen. Qu'est-ce qu'on va savoir? Il faut savoir qu'effectivement, il y a une menace iranienne qui correspond vaguement au texte. Mais si on va vraiment au bout des choses dans les textes, c'est pas au début contre nous que doit se prendre l'Iran. Au début, il doit y avoir une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Ça apparaît très clairement dans tous les textes. Dans Daniel, commentaire de Daniel, Malbim sur Daniel, chapitre 2. C'est marqué à la fin des temps, il y aura une grande guerre entre l'Orient et l'Occident. Et Yassin Gemara dans Yoma, traité Yoma, page 10. Amar Rabbi, Adi Rabbi, Atida Romi Shipol Beyat Paras. Dans le futur, Rome. Rome, c'est l'Occident. Ce n'est pas les Italiens, ce n'est pas l'Italie. D'accord, c'est le leader occidental tombera dans les mains de la Perse. Il y aura un grand combat entre l'Iran actuel, la Perse, et l'Occident. Qui sait? Je ne sais pas, peut-être l'Amérique, comme une alliance alliée occidentale, j'ignore. Qui va gagner? La Perse. Plus bas dans la Gemara, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yehuda, Berabbi Elai. A dit Rabbi Yochanan, Onu Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Elai, Atida Romi Shuvol Beyad Paras. Dans le futur, Rome tombera dans les mains de la Perse. Il répète ce qui a été dit. Il a même attendu une preuve. Kala Chomer. Il fait un raisonnement a fortiori. Umam Mikdash Rishon. Tu vois que le premier temple, qui a été construit par Bnei Shem, par les Sémites, les Juifs. Vechivu Katim, qui a été détruit par les Babyloniens, donc les Irakiens. Naflu Katim Beyad Parsim. Tu vois qu'à la fin, les Irakiens sont tombés dans les mains des Perses. L'empire irakien, celui qui a conquis le premier temple, c'était Nabucodonosor, le roi d'Irak. Au final, il a été conquis par les Perses. Mikdash Sheni, le deuxième temple, qui a été construit par les Perses. Pas que ceux qui ont détruit, pour finir, ils sont tombés dans les mains d'autres. Celui qui a détruit, c'est l'Irak. Il a été perdu. Il a été mis dans les mains de la Perse. Donc maintenant, le deuxième Mikdash qui a été construit par les Perses, Vechivu Romeim, a été détruit par les Romains. Enodin Shiplu Romeim Vehat Parseim. On voit que le deuxième temple a été construit par les Perses. Sur les constructeurs. Qui va le détruire, ce deuxième temple? Les Romains, si on voit que les destructeurs du premier temple ont été conquis par les Perses, donc il y a tout fort. Il y a un raisonnement a fortiori de dire que les Perses qui ont construit le deuxième temple, donc c'est eux qui vont vaincre ceux qui ont détruit le temple. Il y a une logique. Il y a un peuple qui a construit, un peuple qui a détruit. Qui doit, d'après la justice de Dieu, tomber dans les mains de qui? Le destructeur du temple, il doit tomber dans les mains du constructeur du temple. Donc il est normal que ce sont les Romains qui vont tomber dans les mains des Perses. L'Occident qui a détruit le deuxième temple, il doit tomber dans les mains de la Perse, l'Iran, qui a construit le deuxième temple. Il faut comprendre, construit le deuxième temple, c'est le roi perse, Cyrus en français, Koresh en hébreu, qui a ordonné la construction du deuxième temple. Donc il a un mérite, les Perses ont un mérite. La royauté perse a un mérite, qu'elle était l'agent de la construction du deuxième temple. Donc à la fin des temps, c'est eux qui vont vaincre les destructeurs du deuxième temple, les Romains. Donc il y a une guerre de main entre la Perse et Rome qui gagne. Ahmadinejad, Rome, ça la fout mal, hein? Heureusement, il y a ce Degmara. Amar Rav, Adi Rav, Atida para Shipol Beyad Romi. Dans le futur, la Perse va tomber dans les mains de Rome. Amou le Rakal, Ravasi le Rav. Rav Kahana et Ravasi répondent à Rav, qui vient de dire, au contraire, il vient de dire que c'est Rome qui va gagner. Benouye Beyad Touré, quoi, les constructeurs vont tomber dans les mains des destructeurs? C'est contraire à toute logique. À Marlow, il leur a répondu, in, oui, Zerat Melech I, c'est un décret du roi. Décret du roi, il semblerait que la Gemara ait fini comme ça. Décret du roi, qu'à la fin des temps, c'est la Perse qui tombe dans les mains de Rome, que les destructeurs vont vaincre les constructeurs, ce qui est illogique, mais c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, messieurs, en ce qui nous concerne, ça doit commencer d'abord entre eux, c'est pas nous. Après tout cela, à la fin, ils se mettent tous ensemble et viennent contre nous. Je ne sais pas comment ça se passe. Durant cette époque-là, le Machiav se dévoie, avant, pendant, après, j'ignore. Et vers cette chaîne, ils viennent ici, en terre d'Israël, et là a lieu la fin. On va quand même lire une dernière chose qui est un peu paniquante, mais encore une fois, il ne faut pas rentrer en panique. On a une Gemara dans le traité Sanhedrin, page 98b. Tout le bas de... en bas de la 98A et début des 98B en haut. Rabbi Yossi ben Kisma, un des grands rabbins qui est enterré d'ailleurs à Méron, où son grand-mère et sa petite-fille ont été tuées vendredi par un kamouchot, là-bas sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. À 100 mètres de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a la tombe de Rabbi Yossi ben Kisma. Il est marqué dans la Gemara chez nous, dans Sanhedrin, que Rabbi Yossi ben Kisma, avant sa mort, a demandé à ses élèves « Enterrez profondément mon cercueil. » Pourquoi ? Chehen kol dekel ve dekel chebe bavel, chehen sous shel parsim nik charbon. Quand tu n'as pas de palmier en terre de Babylonie, en terre d'Irak, dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché. Venecha kol aron ve aron chebe Israël. Tu n'as pas de aron, ça veut dire de cercueil, en terre d'Israël, chehen sous madai ochel votev, dans lequel tu n'as pas un cheval med. Med, c'est perse, c'est la même chose, iranien. Qui mange du foin. Tu n'as pas de cercueil. Rachel explique sur place. Chez Motsin, Aronot, Khout, le Karka, on déterre les cercueils hors de la terre. Vosin, Mehem et Vosin. À l'époque, les cercueils étaient faits de pierre, une sorte de grande baignoire de pierre à laquelle on posait le mort. On sort les cercueils de la terre, on en fait des Evosim, des mangeoires pour les animaux, les Mehemet, Gogumagog. Car les armées qui viennent sur leurs chevaux, on va déterrer les cercueils pour en faire des mangeoires pour les. Chevaux. Donc Rabbi Yossi ben Kisma est prévoyant, il ne veut pas que des chevaux perses mangent dans sa tombe, c'est pas très agréable, ça peut déranger. Alors il demande qu'on enterre son cercueil très profondément. Le Rachid vient juste après, c'est le deuxième de la page, il est un peu paniquant. Il explique, chez Enkol de quelqu'un, tu n'as pas de palmier en terre d'Irak, etc. etc. C'est-à-dire, il explique. Atidin, Paras ou Madai. Dans le futur viendront les Perses et les Mèdes, c'est les rangs actuels. Lavo al-Babel vont partir en guerre contre la terre d'Irak. Je vais m'arrêter ici et expliquer un peu de géopolitique. Le monde islamique est séparé en deux parties, les sunnites et les chiites. Les sunnites qui sont plus modérés au niveau religieux, les chiites qui sont beaucoup plus fondamentalistes, et c'est chez eux qu'il y a beaucoup de Hezbollah, de combattants de Dieu, de djihad. L'Iran, en gros, est chiite. L'Irak, en gros, est chiite. Mais sous domination sunnite. L'Arabie saoudite, elle est plutôt sunnite. Il y a une concurrence entre les deux. De tout temps, l'Iran a voulu conquérir l'Irak. Pourquoi ? Pour le pétrole. Il y a eu la grande guerre Irak-Iran il y a une trentaine d'années. Pendant 10 ans, ils sont canardés, ils sont tués les uns les autres pour le pétrole. Mais on ne va pas dire aux masses, aux soldats, on va maintenant se battre pour avoir le pétrole. Non. Les Iraniens disaient à leurs soldats, nous allons maintenant sauver nos frères chiites qui sont sous oppression usurpatrice sunnite. Saddam Hussein, à l'époque, le maître de l'Irak, est sunnite. Il n'est pas un grand religieux. Mais il maîtrise la majorité qui est chiite. Nous devons, nous, leurs frères chiites, aller les sauver. Quand l'Amérique a conquis l'Irak, j'ai dit, oy vavoy, c'est très dangereux. Pourquoi ? Parce que le monde chiite, le monde iranien, qui veut nous conquérir, comprenez que le seul moyen par lequel le dirigeant de l'Iran, Ahmadinejad, peut devenir le leader du monde islamique, c'est en effaçant Israël de la terre. C'est comme ça qu'on devient le dirigeant du monde islamique. Il y a quelqu'un qui empêche de tourner en rond. C'est qui ? Saddam Hussein. Il barre. L'Iran veut rentrer, descendre, venir conquérir Israël. Impossible. Saddam Hussein fait barrage. Il a des dizaines de divisions blindées. Il est puissant. L'Amérique vient, balaye Saddam Hussein. Tout le monde applaudit. Ok, on applaudit. Mais la suite du programme, quelqu'un y a pensé. Combien de temps l'Amérique va rester en Irak ? Hein ? Donc déjà 2000 morts. Un séjour, suffit que Bush maintenant il n'est pas réélu, hop, le prochain président est bien, allez, nous on fiche le camp. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas prophète, ni sous-prophète, ni géopoliticien. Mais il se pourrait, je n'en pèse spéculation, elle ne vaut rien du tout, je me trompe toujours. Ben, l'Iran dit, on va maintenant sauver nos frères, chiites. Comme ils le font aujourd'hui, ils envoient sans cesse toutes les bombes vivantes qu'il y a maintenant en Irak, ce sont des chiites. On va aller sauver nos frères chiites, et on descend en Irak. D'Irak à Israël, il ne faut plus que dépasser, que franchir la Syrie. C'est à deux pas. Rachid nous dit il y a 900 ans les paroles d'Arabi Youssef Ben Kisma, il y a 2000 ans, messieurs. À la fin des temps, Atidin, dans Gog ou Magog, dans le futur, Paras ou Madaï vont venir en guerre contre l'Irak. Ou El Akda vont la conquérir. Kol Eretz Babel sera rempli toute la terre de Babylone, d'Irak, Khaylot, Parsiim, des armées perses. Vesousehen et de leurs chevaux. Tu n'as pas de palmier, dit la Gemara, dans laquelle tu n'as pas de palmier en Irak, dans laquelle tu n'as pas un cheval perse qui est attaché. Des centaines de milliers, 80 millions ils sont les Iraniens. Imagine que maintenant l'Amérique ou Israël vient à éliminer la bombe atomique d'Iran. Ahmadinejad, il est comme ça, il ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'il dit ? Il n'a plus de place maintenant. Il dit, djihad, à pied on y va. Prenez vos âmes, prenez vos chameaux, prenez vos chevaux, on y va. 80 millions d'Iraniens qui commencent Ebah Yaoud. On va maintenant égorger les Juifs, on va conquérir l'Irak. On conquérit l'Irak. Au Misham, et de là-bas, nous dit Rashi, Ba'im, les Israéliens viendront en terre d'Israël, Velokdim Ota, et la conquérissent. Alors qu'est-ce qu'on fera ? Alors c'est la fin du Tehilim qu'on lit tous les matins, que j'ai commenté auparavant, Tehilim 124. La dernière phrase nous dit, quand on dit « C'est Dieu qui est là pour nous sauver lorsque se lèvera contre nous un homme. Alors vivant, il nous aurait dévoré. » Le dernier verset nous dit « Ezrenu beshem Adonai osé shamayim va'aretz. » Sauve-nous au nom du Dieu, créateur des cieux et de la terre. Bereshit bara Elohim beshamayim et ta'aretz. Pour Reshit, Dieu a créé le ciel et la terre. Réchit, c'est Israël. Nous sommes Israël et Dieu nous chérit. Il y a une promesse que le peuple d'Israël est un peuple éternel. Jamais personne ne pourra rien nous faire au niveau de la collectivité d'Israël. En tant que privé, en tant que Chas Shalom Shoah, qui est beaucoup de Juifs qui disparaissent, à Dieu ne plaise, ça peut arriver. Mais Israël est un peuple éternel. Notre seul moyen de nous sauver en tant que particulier, c'est s'insérer dans la collectivité d'Israël. À propos de laquelle il y a une promesse d'éternité. Le but du monde, c'est Israël qui étudie la Torah. Étude de Torah, pleurer les morts d'Israël, ça nous est égal, on doit prier pour eux, on doit pleurer pour eux, on doit implorer Dieu, on doit s'insérer. Je ne peux pas, moi, dire, ah, bah, je suis à Jérusalem, ici au nord, ils sont canardés, ça ne me concerne pas. Ça nous concerne. Comment ça nous concerne en tant que Bnei Torah ? Et plus d'études de Torah, plus de Tehillim, il faut que ça va être bien étudié la Gemara. plus de prières, arrêtez de faire des avérot. Ça nous concerne. Je ne suis pas prophète ni fils de prophète. Mais si j'ai raison. Il y a une chance sur un milliard, une chance sur un milliard que j'ai raison. Il ne faut pas la peine de l'apprendre. Ça a commencé maintenant, cette guerre a commencé le 17 Tammuz. C'est pas pour rien. C'est 3 semaines de malheur pour Israël. En tout cas, Israël fasse tchouva. Alors Hachem, qu'on fasse tchouva, qu'on comprenne maintenant qu'il se peut qu'on approche de la fin, qu'il se peut qu'on est très loin encore de la fin. Encore une fois, tout est ouvert, je ne suis pas prophète ni fils de prophète. Que Dieu ait pitié de son peuple et qu'il arrête nos malheurs. Amen. Amen.